pour la première fois, l'ordre familial pourrait ne plus être fondé sur la différence sexuelle, avec une dissociation entre féminité et maternité, actes sexuels et procréation. Donc finalement, il y a quand même, même si le désordre date pas d'hier, il y a quand même une mutation aujourd'hui qui fait un désordre particulier.
Alors, Elisabeth Rodinesco.
Le grand changement, c'est en effet que le père a perdu la totalité des droits qu'il avait sur le corps des femmes depuis 2000 ans. Et non seulement ça, mais la biologie a fait que le père est devenu certain, avec les recherches en paternité, c'est-à-dire on peut l'identifier, alors que tout l'ordre familial avait reposé sur l'incertitude et donc la fidélité obligatoire de l'épouse, hein, c'était ça le bon. Et aujourd'hui, donc, il peut être certain, alors que la mère, au contraire, peut être incertaine, et à cause des transports d'ovocytes. Mais surtout, les femmes ont acquis la possibilité, ou plutôt les mères, de la maîtrise à peu près totale de la procréation à cause du divorce, à cause de la contraception, etc. Donc il y a un renversement absolument considérable. En effet, ça c'est en 70 ans.
Là vous allez très loin quand même, parce que finalement vous dites aussi qu'il n'y aurait pas seulement une émancipation des femmes, une libération des femmes, mais aussi une inversion de la domination masculine en toute puissance du féminin aujourd'hui. Donc il y a des associations qui se créent régulièrement en défense des pères, des actions en défense des pères. Vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, les femmes sont toutes puissantes dans
les pouvoirs. Les mères sont toutes puissantes, parce que en même temps, les femmes non.
Les mères.
Les mères, oui. Voilà, quand elles deviennent mères, parce qu'en même temps, il y a la détresse terrible de la solitude des femmes, c'est-à-dire que ça a créé en effet une situation tout à fait nouvelle. Et puis alors, il y a en effet la grande réflexion que je fais sur la dissociation de la sexualité et de la procréation, qui pose des problèmes énormes, puisqu'il y a même des utopistes qui pensent qu'un jour, on fera les enfants indépendamment de l'acte sexuel. C'est-à-dire, en gros, dans des boîtes, que les femmes seront débarrassées de la maternité. Il y en a qui le pensent vraiment. Bon, moi, je ne le pense pas du tout.
Mais ainsi, on rejoindra quoi, le vieux rêve antique, au fond, qui est que les enfants ne connaîtront pas leurs parents?
Peut-être, il y a cet aspect-là.
Il y a une idée un petit peu platonicienne de la fin de la chose?
Non, parce qu'on a renoncé à la notion d'abolition de la famille, au sens où Platon, en effet, et tous les grands abolitionnistes rêvaient que la cité n'y ait plus de père et de mère. Non, c'est pas ça qu'ils pensent. Pensent plutôt en termes utilitaristes. C'est-à-dire, les femmes pourront enfin être l'égales des hommes, parce que ne portant plus les enfants qui seront faits en boîte, elles n'auront plus les vicissitudes. Bon, évidemment, c'est une des grandes illusions qu'on peut d'ailleurs dénoncer avec la psychanalyse. Ça enlève le tragique, en quelque sorte. Et moi, j'essaie de le ramener. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un moment libérateur et nouveau, il y a un nouveau tragique.
Oui, et vous ramenez aussi à la question du sentiment individuel et personnel de ces changements en question. Alors que, justement, on a appris hier que la Grande-Bretagne allait donc, en Grande-Bretagne, allait donc déposer un projet de loi sur cette possibilité pour les couples homosexuels de pouvoir adopter les enfants. Il est question tout de même aussi de votre livre, de cette fameuse famille possible homoparentale, plus que possible, qui existe déjà beaucoup, d'ailleurs aux États-Unis entre autres, et en France également. Et là aussi, vous dites au fond que il y a un désir, vous posez la question, il y a un désir, et d'où vient ce désir de normalité du couple homosexuel, de vouloir absolument reproduire les schémas familiaux classiques contre lesquels, à une époque, ils s'étaient soulevés, parce que justement le schéma familial était un schéma censeur, castrateur, qui ne validait pas, qui ne reconnaissait pas l'homosexualité en tant que telle.
Oui, et puis surtout, autrefois, les homosexuels, quand ils voulaient avoir des enfants, ils les faisaient avec des femmes. Ils séparaient alors, eux, leur sexualité de la famille. Aujourd'hui, ça a changé en deux temps. Hein. Les années 70, en Californie, c'est les femmes qui ont commencé, les femmes lesbiennes. Moi, j'aime pas le mot homoparentalité, mais enfin, disons, les femmes ont commencé, c'était beaucoup plus simple. Après les grandes vagues de contestation de la famille, on s'est aperçu, évidemment, qu'on contestait quelque chose qu'on ne pouvait pas contester, puisque je reprends la théorie d'Adorno, hein, qui m'a beaucoup frappée, c'est-à-dire, et de Freud, d'ailleurs. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de contestation de la famille, et le sujet ne se structure pas, puisque chaque sujet ne peut se structurer qu'en rébellion et en réconciliation avec la famille. Donc, bah, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire. Bon. Quant aux homosexuels hommes, le désir de transmission, enfin, et de paternité, c'est évidemment venu avec le sida. Ça, c'est certain. L'hécatombe d'une génération a fait que, bon, il y a eu le Pax et puis le désir de transmettre. Ouais.
Mais comment analysez-vous, Elisabeth Rodunesco, l'idée que de désir de normalité, la question ensuite alors du normatif, on va dire même du législatif, de la puissance publique, soit révélatrice de ce qui serait justement, de ce qu'on appellerait un désordre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement la société, une fois de plus, a peut-être, non pas un peu d'avance, mais simplement s'organise, mais que dès qu'il y a du législatif, on a bien vu même comment on a pu interpréter comme un lapsus finalement que la gauche se soit absentée la première fois, hein, vous vous souvenez, pour voter le Pax, lapsus révélateur, on dit certains, c'est-à-dire que vraiment c'est quelque chose qu'on prend du bout des doigts. Et comment expliquez-vous que donc, oui, de la normalité, tout le cadre législatif soit aussi effectivement compliqué et soulève vraiment des passions au sein de ce qu'on appellerait l'exécutif, par exemple, oui, par rapport au corps social plus général.
Le Pax est possible pour le fondement anthropologique de la famille qui ne reposerait plus sur la différence des sexes. Ça, il faut changer complètement la loi. Donc ça pose un problème énorme. On ne peut pas faire rentrer à l'heure actuelle dans ce cadre-là, sauf à changer les législations. Donc c'est un droit qui va se faire, mais qui va mettre, à mon avis, pas mal d'années, parce que pour le moment, la famille, le mariage est encore fondé sur la différence des sexes. Ce que moi je dis...
Mais parce que ouais, la loi a du mal avec la biologie, avec la physiologie, justement, c'est bien ça.
Plus que ça, avec l'anthropologie, avec la représentation absolument nécessaire et inévitable de la différence des sexes dans chacun de nous. Parce que je conclus d'ailleurs à l'idée qu'elle est incontournable. Hein. Je retourne à la fin le raisonnement en disant que je ne partage pas l'idée, d'où le paradoxe, je ne partage pas l'idée qu'elle puisse être abolie. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on est dans une contradiction entre un désir de famille. Et puis, ce qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est le nombre d'enfants aujourd'hui dans le monde élevés par des homosexuels. Je pense qu'on ne peut pas
La société a pris de l'avance.
Il faut réfléchir, il faut poser les problèmes calmement. Et non pas rejeter quelque chose. Et surtout,
là où vous n'allez pas vous faire que des amis, c'est que vous dites attention, cela dit en même temps de la part des couples gays et lesbiens, attention à l'attention de l'expertise, attention à la revendication absolument identitaire, dire oui, on peut être, vous voyez, nous aussi une famille comme les autres. Oui.
Écoutez, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des centaines d'expertises complètement inutiles, où on demandait aux enfants et aux parents homosexuels, est-ce qu'il y a des risques que vos enfants deviennent homosexuels ? On s'apercevait que non. Ensuite, bon, et on a expertisé quoi ? Ça ne tient pas debout. Et en outre, ces expertises finissaient par faire dire à ces personnes homosexuelles que c'était pas bien qu'elles le soient. C'est-à-dire, elles finissaient par dire, on va être comme les autres. Non, ils ne sont pas comme les autres.
Oui, on sait bien aussi comment Foucault, à une époque, a justement essayé de dire en quoi spécifiquement la sécurité homosexuelle devait ne pas être normée de cette façon-là.
Je crois que la meilleure chose, c'est en effet de dire qu'ils sont homosexuels. Ils ne peuvent pas masquer, donc ils se sont trouvés dans une situation à avoir à faire comme s'ils n'étaient pas homosexuels. Donc il vaut mieux, au contraire, et toutes ces expertises, évidemment, ne riment à rien.
Jean Birnbaum, et puis...
Alors, il faut quand même dire un mot tout de même sur cette question de l'homosexualité, parce que il y a quelques années, vous avez fait ce livre.
Vous allez la mettre en colère, parce qu'elle dit que son livre ne parle pas que de ça.
Non, mais il y a un quart d'heure qu'on parle du reste et de la famille.
Et puis le dialogue avec Derrida, on avait abordé.
Oui, tout à fait. Donc, quand même, vous aviez fait, il y a quelques années, il y a deux ans de cela, dans Pourquoi la psychanalyse, une sorte de plaidoyer en défense de la psychanalyse contre ce que vous appeliez la rage anti-freudienne. Aujourd'hui, c'est quand même une mise en cause de la psychanalyse et d'une certaine frange du milieu analytique, justement sur cette question de l'homosexualité. Vous parlez d'une furia psychanalytique de la fin du deuxième millénaire, vous parlez même de déshonneur de la psychanalyse, oui. Et finalement vous affirmez que globalement, quasiment tous les héritiers de Freud sont infidèles, puisque Freud lui-même refusait de qualifier de...
Sa fille, Anna Freud, vous vous rappelez comment Anna Freud a changé...
Elle était homosexuelle. Bon,
oui. Donc là, il y a aujourd'hui...
Pardon, elle ne l'était pas, quel lapsus.
Elle était soupçonnée.
Elle ne l'était pas, mais elle était soupçonnée.
Vous dites, oui, rigidité de la psychanalyse face aux révolutions de la famille, vous insinuez qu'au fond, effectivement, quand on relira, vous le disiez, les textes des psychanalystes d'aujourd'hui, écoutez bien Juan David Nasio, on constatera quoi, que les psychanalystes sont, je vais le dire un peu vulgairement, ont été à côté de la plaque sur cette question-là.
Oui, cette question-là, ils ne l'ont pas pensé. J'ai pris la défense, évidemment, de la psychanalyse en 1999. Le plaidoyer était sur le tout traitement chimique. Bon, C'est-à-dire en montrant que, bien entendu, jamais on n'arrivera à bout de la question du psychique par l'organique. Bon, ça, c'est un débat. Alors là, le problème est tout à fait différent. C'est interne, c'est-à-dire que il faut réviser le complexe d'Édipe. C'est d'où les deux chapitres consacrés à Édipe et Hamlet. Il faut remettre de la tragédie et non plus de la normalisation pour comprendre, au fond, cette question qui a été essentielle dans Freud, qui, lui, d'ailleurs, n'avait pas cette attitude, et qui était qu'est-ce que l'homme face à son désir.
Oui, vous reprenez la généalogie Œdipe, Hamlet, Carme et les frères Karamazov.
Les frères Karamazov, c'est-à-dire la fameuse trilogie de la nécessité du désir coupable, de la réconciliation avec le père. Bon. Et donc, j'ai repris ça. Mais surtout, j'ai comparé, oui, en deux mots, ce qui m'a frappé surtout, c'est à 100 ans d'intervalle, on a dit exactement la même chose à la fin du siècle dernier. Si les femmes se mettaient à travailler, la famille serait finie. Il y aurait un effacement de la différence des sexes parce que les femmes ressembleraient aux hommes et feraient les mêmes métiers. Il y aurait plus d'enfants. Elles ne feraient plus d'enfants. Il y aurait plus, voilà. Et donc j'ai trouvé que l'argumentation était très étonnante. C'est la même avec les homosexuels. On va effacer la différence des sexes, etc. Or, la famille, elle continue.
On pourrait se demander s'il n'y a pas une petite contradiction quand même, ou si vous excluez pas de vous-même du freudisme, parce que, en reprochant aux psychanalystes d'avoir peur aujourd'hui de l'effacement de l'ordre symbolique et du délitement de l'autorité paternelle, etc., finalement, est-ce que vous n'êtes pas infidèle vous-même à Freud ? Vous rappelez que Freud lui-même n'imaginait pas qu'il y ait une dissociation entre maternité et féminité sans que la civilisation sombre dans le chaos, que Freud lui-même n'a pas cessé de revaloriser la fonction paternelle, Lacan aussi avec le nom du père. Donc, les psychanalystes aujourd'hui auxquels vous vous attaquez, peut-être qu'ils sont plus fidèles que vous au freudisme originaire.
Elisabeth Rodinesco.
Je crois pas, parce que quand même, il y a un hommage vibrant à Freud, parce que avoir quand même été jusqu'à penser
qu'on pouvait être psychanalyste et homosexuel, par exemple.
Non, ça, il était d'accord.
Oui, il était d'accord, l'environnement à son époque était tellement contre ça.
Il a fallu quand même. Qu'il ait réussi à parler, comme il l'a fait, de la sexualité féminine sans penser la dislocation, c'est quand même déjà extraordinaire. Bon. Et en plus, moi, j'ai toujours pensé qu'on était fidèle quand on était infidèle. Enfin, j'ai repris ça à des dames. C'est la seule façon.
Mentalité.
Mais c'est la seule façon, parce que les grandes écoles, les grandes théories sont toujours menacées de dogmes. Donc pour renouveler une pensée, il faut la retravailler et il faut pas répéter bêtement la vulgate.
Mais et vous dites effectivement d'ailleurs qu'il faut bien se méfier aussi que les nouvelles définitions de la famille, les nouvelles directions que peuvent prendre la famille à travers à la fois le cadre législatif ou le cadre plus général, sans forcément qu'ils soient encore normés, qu'il faut chaque fois éviter que cela devienne un dogme, hein, évidemment. Oui. On sent bien une défiance par rapport à cette question. Alors Juan David Nasio, les psychanalystes sont totalement à côté de la plaque sur ces questions de la famille.
Justement...
Je rappelle que vous êtes psychanalyste.
Oui,
donc,
absolument.
Que vous publiez un psychanalyste sur le divan chez Payot.
Et non, mais justement, j'aborde le problème de l'homosexualité, puisque c'est vrai qu'il y a une crise actuelle au niveau de la famille, et ça se voit dans le cabinet. Je reçois énormément de motifs de consultation, les gens viennent me voir, et même d'ailleurs, pour parler des homosexuels, j'ai reçu le mois dernier un couple de lesbiennes qui sont venus me dire, voilà, nous avons le projet d'avoir un enfant avec un homosexuel qui veut bien lui faire l'amour à ma compagne. Docteur, nous venons sérieusement vous demander comment élever cet enfant et quels sont les problèmes.
Alors, vous répondez quoi ?
Ah, je réponds qu'il y a certains... Je réponds quoi ? Je réponds que pour élever un enfant... Et là, les analystes le savent bien, surtout les analystes d'enfants, nous savons certains critères qui sont valables pour élever un enfant d'une famille tout à fait normale ou d'une famille lesbienne, peu importe. Il y a certains principes, et je leur dis à cette dame quels étaient ces principes et la nécessité de les respecter. Si elle les respectait, eh bien, il n'y avait pas de problème. Si elle ne les respectait pas, on allait se trouver effectivement dans des difficultés.
Qu'est-ce que vous faites de l'homme là, dans cette histoire-là ? Donc celui qui va.
Mais il y a un homme.
Oui,
il y a un homme qui
va y avoir un homme dans l'histoire.
Ce cas de figure est très classique. Bon, le vrai problème qu'il va y avoir, ça n'est pas quand les. Quand des homosexuels font des enfants entre hommes et femmes. Il y a un père et une mère. Mais oui, une femme homosexuelle fait un enfant avec un homme homosexuel qui est son père. Et donc, il y a un désir de famille entre eux. C'est-à-dire, l'enfant a un père et
une mère.
Alors, voilà. Non, ce qui donc, me paraissait.
C'est pas du tout la même chose, les procréations.
Tout à fait. Ce qui me paraissait important, c'est de prendre le problème, non pas. Parce que la question était, est-ce que notre enfant va avoir des problèmes? Voilà la question simple qu'elle posait. Au lieu de répondre, oui, il aura des problèmes, non, il n'aura pas, je n'ai pas répondu ça. Je dis, voici ce qu'il faudrait pour qu'un enfant se développe normalement, et j'ai soumis à cette dame, où j'ai discuté avec tous les deux, sur les conditions favorables pour qu'un enfant soit élevé. Par exemple, il y a un principe majeur, et que les parents, même hétérosexuels, des familles les plus ordonnées qui soient, oublient, c'est qu'il ne faut pas qu'un enfant soit le roi dans la famille. Par exemple. Or, une
sinon, ça donne des sauvageons épouvantables.
Hein?
Sinon, ça donne des sauvageons épouvantables, disent Jean-Bien Dom, qui
absolument,
connaît bien la chose.
Absolument, c'est-à-dire que...
Qu'était le roi dans sa famille.
C'est essentiel qu'un enfant...
Je ne pensais pas qu'on parlerait du livre de Chantal-Lagor aussitôt.
Voilà. Mais bon. C'est essentiel qu'un enfant ne soit pas le roi dans la famille. Or, quand il y a une famille d'homosexuels, tous les deux mères ou tous les deux pères, effectivement, il y aura une tendance...
Une surenchère ?
À une surenchère, une sorte de hypertrophie de la relation de l'un et de l'autre avec l'enfant, et ça, c'est très mauvais. Mais si les deux partenaires homosexuels réussissent à garder un certain rapport partagé, je le disais, ce qui compte, mesdames, c'était extraordinaire de dire ça comme ça, ce qui compte, mesdames, c'est que cet enfant que vous allez voir puisse vous voir faire des rapports, des câlins entre vous et l'autre, puisse l'enfant constate qu'il y a une bonne relation avec le père, cet homme homosexuel. En d'autres termes, il faut que l'enfant, pour qu'il se développe bien, il faut qu'il sente et qu'il voit ses parents s'aimer au son de s'aimer, au son des tendresses. Et ça, c'est la meilleure chose. Donc, voilà ma réponse. Ma réponse n'était pas une réponse des lois, ni une réponse d'interdit. C'est une réponse latérale.
Pas dogmatique non plus.
Pas dogmatique, mais c'est une façon latérale d'aborder le problème. Comme d'ailleurs, par rapport aux homosexuels en général, le hasard veut que je dis exactement la même chose que dit Freud. C'est-à-dire, je dis dans mon livre, quand je parle des homosexuels et de l'homosexualité, que l'homosexualité n'est pas une perversion, n'est pas une maladie. Je le dis aujourd'hui, je l'écris nettement.
Ça paraît peut-être un peu superflu, non, de rappeler ça aujourd'hui, ou vous pensez que c'est...
Ah non, il faut le rappeler.
Il faut le rappeler.
Freud l'avait dit déjà il y a, je ne sais pas combien d'années, plus de 50 ans, et, ou plus, et nous le répétons aujourd'hui, je ne fais que le répéter, et d'ailleurs, c'est très important de constater à nouveau un autre type de problème par rapport à l'homosexualité. Aujourd'hui, les homosexuels ne viennent plus. À l'époque où j'avais commencé, c'est vrai, je me souviens toujours des femmes ou des hommes qui venaient me voir pour me dire, écoutez, docteur, je voudrais changer ma sexualité parce que je souffre avec ma famille, ça se passe très mal. Aujourd'hui,
il y a cet homme qui voit un nuage noir, c'est ça. Il y a cet homme, nous vous racontez, qui voit un nuage noir, qui a un nuage noir devant les yeux, parce qu'il a pas dit qu'il était homosexuel, jamais, il y voit quasiment plus, et vous arrivez à l'écouter, à lui faire aller mieux.
Tout à fait. Mais le problème, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 2002-2003, aucun homosexuel vient consulter pour vouloir changer des sexualités. Jamais.
D'ailleurs, s'il le demandait... Vous rejoignez Freud, il ne s'agissait pas effectivement de guérir. Hein,
absolument. D'ailleurs, s'il le demandait, personne n'est en mesure d'échanger une identité sexuelle établie. Par contre, ils viennent souvent, et j'ai de plus en plus, des homosexuels qui viennent parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils n'arrivent pas à faire de couple, et que les couples qu'ils arrivent à faire se défont rapidement parce qu'il y a toute une pratique, un rapport à la sexualité et à l'amour qui fait qu'effectivement, pour certains, je ne dis pas tous, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire une moyenne, je parle de la répercussion clinique, de mon observation clinique, effectivement, il y a une difficulté à la constitution d'un couple solide.
Elisabeth Rodinesco ?
Cette difficulté existe chez les hétérosexuels aussi.
Aussi.
Donc l'évolution est la même. Non, mais ça a fait l'objet quand même de tout un débat. Si ce que vous constatez, et que nous constatons tous, bien entendu, c'est qu'aujourd'hui, plus aucun psychanalyste sérieux n'essayera de guérir un patient de son homosexualité, ça n'a pas toujours été le cas, comme je le rappelle. D'ailleurs, ça, c'est un acquis Bien entendu que Freud était d'accord, mais le mouvement psychanalytique s'y est opposé, et Lacan en France a été le premier à condamner ça, mais jusqu'en 74, c'est-à-dire la déclassification par l'association de psychiatrie de l'homosexualité comme maladie mentale. Autrement dit, si on en est là aujourd'hui, c'est pas par les psychanalystes, c'est par les homosexuels eux-mêmes qui ont exigé la déclassification, c'est-à-dire au cours d'un combat contre la psychiatrie.
Mais là, vous faites comme si tout allait bien maintenant. Il y a quand même aujourd'hui encore une vraie confrontation. Sûr. Et la cible numéro un de la plupart des gens qui réfléchissent sur les questions de genre, c'est le trouble d'identité, oui, et l'intégration de l'homosexualité dans, oui, la société, c'est quand même le psychanalyste. Là, vous faites comme si c'était du passé, tout va bien.
D'autant que, excusez-moi, mais l'IPA vient d'autoriser, là, pour la première fois, officiellement, de prendre position pour qu'un homosexuel puisse être psychanalyste dans l'internationale freudienne 2002. Pour la première fois, on lève l'interdit, donc quand même.
Et je note, Ron David Nasio, que vous n'avez pas répondu donc à la question. À ce que disait Elisabeth Roudinesco, que tout le monde, le corps psychanalytique, si je puis dire ça comme ça, n'est pas en phase tout à fait avec la société actuelle et avec les débats actuels.
Effectivement, il y a eu toujours des collègues qui ont avancé des hypothèses ou des positions à l'égard de l'homosexualité que ne correspondent pas à l'époque actuelle, ni correspondent pas à Freud non plus. Mais non, mais je suis un exemple des analystes qui sont en position tout à fait fidèle à Freud, puisque Freud l'avait déjà dit.
Mais comment résoudre cette contradiction dont je parlais tout à l'heure? Le freudisme est basé sur la revalorisation du père et de l'autorité paternelle et du nom du père chez Lacan, et en même temps, essaye aujourd'hui de s'adapter à la société telle qu'elle est, avec le trouble des identités et l'émergence non seulement du féminin, mais de la toute-puissance maternelle. Comment est-ce que vous pouvez concilier
On dit par exemple, la psychanalyse est en crise, il y a peu de production. Pas du tout. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons un champ très vaste de recherche, et il y a des collègues qui travaillent sur cette question, sur le problème de reformuler effectivement le problème de l'Édipe, mais non pas dans une critique à la Deleuze qui avait ses avantages, mais une révision de la dynamique de la relation à trois, du triangle fameux père-mère-enfant.
Alors, Ron David Nasio, je disais que votre livre, Un psychanalyste sur le divan, tentait de soulever un petit peu le rideau, d'aller chercher le secret derrière la porte. Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander de résumer tout votre travail dans le petit temps qui nous est imparti avant le journal. Mais une chose, j'ai noté dans votre introduction, vous parlez de descente intérieure et vous parlez de cet effet d'apnée que suscite
le grand bleu.
C'est le grand bleu que vous ressentez.
Les plongeurs du grand bleu.
Ça n'est pas tant de comprendre ce que l'autre ressent que d'essayer soi-même de le ressentir à travers cet état d'apnée, de descente intérieure.
Merci, monsieur Wanchet, de le souligner, parce que pour moi, c'est une des choses les plus importantes que j'ai voulu vous dire dans ce livre. C'est que cette opération mentale qui, pour moi, définit la psychanalyse et qu'on ne peut pas faire à tout le moment, avec tous les patients, dans toutes les séances, c'est effectivement cette expérience analytique, je dis bien, que je définis comme l'acte analytique, qui est de ressentir en soi ce que l'autre a oublié. Dit comme ça, ça a l'air apparemment simple.
Toute personne qui souffre recèle un enfant désemparé, vous essayez donc vous-même d'intégrer.
Je crois que l'analyste travaille non pas avec ses sentiments, avec l'amour, avec ses fantasmes, il travaille avec son inconscient. Et cet inconscient, je le définis comme un inconscient instrumental. Pour moi, c'est un instrument qui est à la disposition du travail qu'il fait. Pas tout le temps, c'est pas possible de travailler en permanence comme ça, mais il y a des moments dans lesquels, effectivement, l'analyste, quand je dis il descend en apnée, c'est dans son propre inconscient. Il faut bien, le grand bleu, c'est pas le grand bleu de l'autre, c'est l'océan, c'est en moi.
Et puis, Ron David Nasio, je crois que, au fond, la plus belle définition qu'on a donnée de votre métier, et pour revenir à cette idée de guérison qui, évidemment, est bannie, théoriquement, normalement, du jargon psychanalytique, c'est pas la question de la guérison, effectivement, enfin, en tout cas, pour des questions d'homosexualité, Elisabeth Roudinesco. Pour d'autres choses, oui, bien sûr. Mais ce que dit Ron David Nasio, c'est qu'au fond, l'idéal, et ce qu'on vous a dit, c'est de renforcer l'existant.
Exact. Je dis ça parce qu'on dit toujours que l'analyse détruit, qu'il enlève les talents, qu'il sépare les gens, etc. C'est complètement... Ce n'est pas du tout ce que j'entends dans mon travail, ce n'est pas du tout l'écho que je reçois. Le psychanalyste travaille avec ce que le patient a déjà en lui, à l'état embryonnaire, et que c'est le travail de l'analyste, c'est de favoriser le développement, le déploiement de ce qu'il est en lui, je dirais bien entendu, de saint, si on doit distinguer entre saint et malade.
Merci, Juan David Nasio.